Le frère de la côte, chapitre 8. Juché côte à côte sur le mur circulaire du puits, dans le ruissellement du soleil du midi, l'écumeur de mer lointaine et le pêcheur de la lagune, en train d'échanger un surprenant secret, avaient l'air de deux hommes qui se concertent dans l'obscurité. Les premiers mots de Pérol furent « Tout va bien ?»«
Tout va bien, » fit l'autre.
« Avez-vous bien cadenassé la porte de la cabine ?»«
Vous savez comment est le cadenas ?»
Pérol ne pouvait pas dire le contraire. C'était une réponse suffisante. Elle reportait la responsabilité entièrement sur lui, et, toute sa vie, il avait été habitué à se fier à l'œuvre de ses propres mains, dans la paix comme à la guerre. Pourtant, il regarda Michel d'un air incrédule avant de déclarer « Oui, mais je sais aussi comment est l'homme. » Michel restait bouche bée, un petit ovale légèrement tordu dans ce visage innocent.
« Il ne se réveillera jamais, » suggéra-t-il timidement.
La commune possession d'un secret considérable, rapprochant naturellement les hommes, Pérol condescendit à expliquer. « Vous ne connaissez pas l'épaisseur de son crâne. Moi, je la connais. » Il en parlait comme s'il l'avait fabriqué lui-même. Michel, qui, à cette déclaration, en avait oublié de fermer la bouche, ne trouva rien à dire. « Il respire, n'est-ce pas ?» demanda Pérol. « Oui, après être sorti et avoir verrouillé la porte, j'ai écouté un instant et je crois que je l'ai entendu ronfler. » Pérol avait l'air à la fois intéressé et légèrement anxieux. « J'ai dû monter ici et me montrer ce matin comme si de rien n'était, » dit-il. « L'officier est ici depuis 2 jours. Il aurait pu lui prendre la fantaisie de descendre jusqu'à la tartane. J'ai été inquiet toute la matinée. Le bond d'une chèvre me faisait tressaillir. » Vous le voyez, grimpant ici, sa tête cassée entourée de bandages, et vous à sa poursuite ? Allons, finis ta soupe, commanda-t-il à voix basse. Et puis, descends à la tartane. Tu as bien verrouillé la porte, n'est-ce pas ?
Mais oui, protesta Michel, ahuri de voir Pérol témoigner d'une telle anxiété.
Il crèverait plutôt le pont au-dessus de sa tête, vous le savez. Tout de même, prends-moi un bout d'acré et étaye-moi cette porte contre le pied du mât. « Et puis ouvre l'œil à ce qui se passe dehors. N'entre le voir sous aucun prétexte. Reste sur le pont et attends que je vienne. Il y a ici un embrouillamini pas facile à éclaircir, et il faut que je fasse attention. Je vais tâcher de me défiler et de descendre aussitôt que je me serai débarrassé de l'officier. » Une fois terminée cette conférence en plein soleil, Pérol franchit tranquillement la porte de la cour et, mettant le nez au coin de la maison, il aperçut le lieutenant Réal assis sur le banc. Il s'y attendait, mais pas à le trouver seul. Cela valait mieux. Partout où se trouvait Arlette, il y avait des chances de difficulté. Il était vraiment temps que ce damné lieutenant retournât à Toulon. Cela faisait le 3e jour. Son congé devait être terminé. L'attitude de Pérol à l'égard des officiers de marine avait toujours été circonspecte et soupçonneuse. Ses rapports avec eux avaient été assez divers. Ils avaient été ses ennemis et ses supérieurs. Il avait été poursuivi par eux. Il avait joui de leur confiance. La Révolution avait nettement séparé en deux le cours de sa vie d'aventure, frère de la côte et canonnier de la Marine nationale. Et pourtant, c'était toujours le même homme. Eux aussi. Officier du roi ou officier de la République, il ne faisait que changer de peau. Tous ne pouvaient que regarder de travers un libre forban. Cet officier aussi ne pouvait oublier ses épaulettes quand il lui parlait. Le mépris et la méfiance des épaulettes étaient profondément enracinés chez Pérol. Il ne détestait pourtant pas absolument le lieutenant Réal. Seulement sa venue à la ferme avait été généralement importune et sa présence à ce moment particulier était un terrible embarras et même, jusqu'à un certain point, un danger. « Je n'ai pas envie de me faire traîner à Toulon par la peau du cou, » se disait Pérol. « Pas de confiance à avoir dans ces porteurs d'épaulettes, tous capables de sauter sur leur meilleur ami pour on ne sait quelle idée d'officier. » Pérol, tournant le coin de la maison, vint s'asseoir auprès du lieutenant Réal, plein du sentiment d'avoir à régler un compte avec quelqu'un qui vous fuit entre les mains. Le lieutenant assis là, sans se douter que Pérol le surveillait, ne donnait aucunement l'idée de la fuite. Bien au contraire, il avait l'air immuablement installé. Tout à fait chez lui.
beaucoup trop même. Après que Perrol se fut assis près de lui, il conserva encore son air immuable. Dans la chaleur de midi, le faible crissement des cigales était le seul signe de vie que l'on entendit. Vie délicate, évanescente, joyeuse, insouciante, et cependant non dépourvue de passion. Une mélancolie soudaine sembla dissiper la joie des cigales lorsque la voix du lieutenant prononça ces mots de l'air le plus indifférent du monde. « Tiens, vous voilà !» Perrol fit semblant de bâiller et déclara avec douceur « Une petite sieste ne ferait pas de mal, ne croyez-vous pas, lieutenant ?» Et il pensait en lui-même « Pas de danger qu'il aille à sa chambre !» Il allait rester là et l'empêcher, lui, Perrol, de descendre la crique. Il tourna les yeux vers l'officier, et si un désir extrême et la simple force de la volonté avaient pu avoir quelque effet, le lieutenant Réal se serait sûrement levé de son banc. Mais il ne fit pas le moindre mouvement. Et Perrol fut fort étonné de le voir sourire, et ce qui l'étonna plus encore, ce fut de l'entendre dire « Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que vous avez toujours manqué de franchise avec moi, Perrol. »« De franchise avec vous ?» répéta l'autre. « Vous voulez que je sois franc avec vous ? Eh bien, je vous avouerai que j'ai souvent souhaité vous voir à tous les diables. »« Voilà qui va mieux, » dit le lieutenant Réal. « Mais pourquoi ? Je n'ai jamais cherché à vous faire le moindre mal. »« Me faire du mal ? » s'écria Perrol, « à moi ?» Mais son indignation tomba comme s'il s'en effrayait lui-même, et il acheva d'un ton tranquille. « Vous êtes probablement allé fourrer votre nez dans un tas de sale papier pour tâcher de trouver quelque chose contre un homme qui ne vous a fait, à vous, aucun mal, et qui était un marin avant que vous ne soyez né. » « Pas le moins du monde. Je n'ai pas fourré le nez dans des papiers. Je suis tombé dessus par hasard. Je ne vous cacherai pas que j'ai été assez intrigué de trouver quelqu'un de votre genre vivant ici. Mais n'ayez crainte, personne ne se met martel en tête à votre sujet. Il y a longtemps qu'on vous a oublié, n'ayez pas peur. Vous, vous venez de me parler de peur, non ? S'écria Perrol. Il y aurait de quoi vous transformer en sans-culotte, n'était la vue du spécimen que nous avons ici. Le lieutenant tourna brusquement la tête, et l'officier de marine et l'écumeur de mer se regardèrent un moment d'un air sombre. Quand Perrol reprit la parole, son expression avait changé. « Que craindrais-je ? Je ne dois rien à personne. Je leur ai remis la prise en parfait état et tout le reste, excepté ma part de chance. Et là-dessus, je n'ai de compte à rendre à personne, » ajouta-t-il sourdement. « Je ne sais où vous voulez en venir, » reprit le lieutenant après un moment de réflexion. « Tout ce que je sais, c'est que vous avez abandonné votre part de prise. Il n'y a aucune trace que vous l'ayez jamais réclamée. » Perrol n'aimait guère ce ton sarcastique. « Vous avez une sacrée langue, » dit-il, « avec votre air de parler, comme si vous étiez fait d'une autre matière. »« Ne vous fâchez pas, » dit le lieutenant gravement et quelque peu surpris. « Personne n'ira rechercher cela contre vous. On a versé cette somme il y a des années à la caisse des Invalides. Tout cela est bel et bien enterré et oublié. » Perrol grommelait et jurait entre ses dents d'un air si absorbé que le lieutenant s'arrêta et attendit qu'il eût fini. « Et il n'est fait aucune mention de désertion ou de quoi que ce soit de ce genre, » poursuivit-il. « Vous figurez sur les rôles comme « disparu ». Je crois qu'après vous avoir recherché, on est arrivé à la conclusion que vous aviez dû mourir d'une façon ou d'une autre. « Vraiment ? Eh bien, peut-être que le vieux Perrol est mort. En tout cas, il s'est enterré lui-même ici. » Le forban devait être dans la plus grande agitation, car il passa en un moment de la mélancolie à la fureur. Elle vivait tranquille, jusqu'à ce que vous soyez venu renifler par ici. Plus d'une fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion de me demander si les chacals ne pourraient pas bientôt venir déterrer ma carcasse. Mais voir un officier de marine venir fourrer son nez par ici, c'était bien la dernière chose. De nouveau, il changea d'humeur. « Que venez-vous chercher ici ? » murmura-t-il, l'air tout à coup abattu. Le lieutenant se mit au ton de ce discours. « Je ne viens pas déranger les morts, » dit-il en se tournant franchement vers le forban, qui continuait à regarder par terre. « Je veux parler au canonnier Perrol. » Perrol s'enlevait les yeux et grommela. « Il n'est pas ici, il est disparu. Allez revoir les papiers. Disparu, personne ici. » Voilà, dit le lieutenant Réal, sur le ton de la conversation, voilà qui n'est pas vrai. Il me parlait ce matin sur la falaise, tandis que nous regardions le navire anglais. Il est très renseigné à son sujet. Il m'a dit qu'il avait passé des nuits à faire des plans pour sa capture. Il m'a l'air d'un homme avec le cœur à la bonne place. Un homme de cœur. Vous le connaissez. Pérol leva lentement sa forte tête et regarda le lieutenant.
« Ouais, » grogna-t-il.
Son vieux cœur était touché, mais la situation était telle qu'il lui fallait rester sur ses gardes avec qui que ce fût qui porta des épaulettes. Son profil conserva l'immobilité d'une tête gravée sur une médaille, tout en écoutant le lieutenant l'assurer que cette fois-ci, il était venu à Escampobar avec l'intention de parler au canonnier Pérol. S'il ne l'avait pas fait plus tôt, c'est qu'il s'agissait d'un sujet très confidentiel. Là-dessus, le lieutenant s'arrêta. Pérol ne fit aucun mouvement. Intérieurement, il se demandait où le lieutenant voulait en venir. Celui-ci semblait avoir déblayé le terrain. Il prit un ton légèrement différent, plus positif. « Vous m'avez dit avoir étudié les mouvements de ce navire anglais. Eh bien, supposons, par exemple, que la brise se lève, comme elle le fera vraisemblablement dans la soirée. Pourriez-vous me dire où la corvette sera ce soir ? Je veux dire ce que son capitaine fera vraisemblablement. » « Non, je ne le peux pas, » dit Pérol. « Mais vous m'avez dit que vous l'aviez observé minutieusement depuis des semaines. Il n'y a pas tant d'alternatives. En tenant compte du temps, vous devez pouvoir juger presque avec certitude. » « Non, » répéta Pérol. « Le fait est que je ne le peux pas. »« Vraiment ? Eh bien, alors vous ne valez même pas un de ces vieux amiraux dont vous avez si mauvaise opinion. Pourquoi ne pouvez-vous pas ?» « Je vais vous dire pourquoi, » reprit Pérol, le visage plus immuable que jamais. « C'est que cet homme-là n'est jamais jusqu'alors venu aussi près. Je ne sais donc pas ce qu'il a en tête, et je ne peux, par conséquent, pas dire ce qu'il pourra faire. Je le pourrai peut-être un autre jour, mais pas aujourd'hui, la prochaine fois que vous viendrez pour voir le vieux canonnier. Non, il faut que ce soit cette fois-ci. « Voulez-vous dire que vous allez passer la nuit ici ? Me croyez-vous ici en permission ? Sachez donc que je suis ici en service commandé. »« Vous ne me croyez pas ?» Pérol poussa un long soupir. « Oui, je vous crois. Ainsi on pense à capturer ce navire. Et on vous envoie ici. Oui, cela ne me facilite pas les choses de vous voir ici. »« Vous êtes un drôle d'homme, Pérol, » fit le lieutenant. « Je crois bien que vous voudriez me voir mort. »« Non, mais seulement loin d'ici. »« Vous avez raison. Pérol n'a d'amitié ni pour votre visage, ni pour votre voix. »« Ils ont déjà fait assez de mal comme cela. » »« Ils n'étaient jamais jusqu'alors parvenus à une telle intimité. »« Ils n'eurent pas besoin de se regarder l'un l'autre. » Le lieutenant pensa, « Ah, il ne peut pas dissimuler sa jalousie. » Il n'y avait dans cette pensée ni mépris ni malice. C'était plutôt une sorte de désespoir, et il reprit doucement « Vous montrez les dents comme un vieux chien, Pérol. » « J'ai eu plus d'une fois envie de vous sauter à la gorge, » répondit l'autre avec calme. « Cela vous amuse. »« Cela m'amuse ? Est-ce que j'ai l'air gai ?» Pérol, de nouveau, tourna lentement la tête et le regarda fixement assez longtemps. L'officier de marine et l'écumeur de mer échangèrent un regard tout imprégné d'une pénétrante et sombre franchise. Cette intimité de fraîche date ne pouvait aller plus loin. « Écoutez-moi, Pérol. » « Non, » dit l'autre, « si vous voulez parler, parlez au canonnier. » « Ce que l'on veut savoir, c'est si cette corvette anglaise entrave beaucoup le trafic côtier. »« Non, pas le moins du monde, » dit Pérol. « Elle ne s'occupe pas de ces pauvres gens. » À moins, je suppose, que quelque barque n'ait une allure suspecte. Je l'ai vu donner la chasse à des bateaux de pêche une ou deux fois, mais elle ne les a pas retenus. Michel, vous connaissez Michel, a entendu dire par des gens de la côte qu'elle en avait capturé plusieurs. Bien sûr, à proprement parler, personne n'est en sûreté. Non, certes. Je me demande maintenant ce que ces Anglais considèrent comme une allure suspecte. Ah, voilà une question. Vous ne savez pas comment sont les Anglais ? Un jour, accommodants et bons enfants, et le lendemain, prêts à vous tomber dessus comme des tigres. Durs le matin, insouciants l'après-midi. Sûrs seulement dans un combat, qu'ils soient avec vous ou contre vous. Mais pour le reste, absolument fantasques. Vous les croiriez un peu toqués, et pourtant, ils ne feraient pas bon se fier à cette idée-là non plus. Le lieutenant lui prêtait une oreille attentive. Perrol avait détendu son front et parlait des Anglais comme s'il se fût agi d'une tribu étrange et peu connue. « Vous n'avez pas acquis cette connaissance des Anglais quand vous étiez canonnier, » remarqua sèchement le lieutenant. « Vous y revoici, » dit Perrol. « Et qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Où j'ai appris tout cela? Supposons que je l'ai appris d'un homme mort à présent. » « Je vois. Tout cela veut dire que ce n'est pas facile de savoir ce qu'ils ont en tête. » « Non, dit Perrol, et il ajouta d'un ton bourru, « et il y a des Français comme cela aussi. Je voudrais bien savoir ce que vous avez en tête. » « Il s'agit d'une question de service, canonnier. Voilà ce dont il s'agit. Une question qui n'a pas l'air de grand-chose à première vue, mais qui, lorsque vous l'examinez, est aussi difficile à résoudre convenablement que tout ce que vous avez pu entreprendre dans votre vie. Il faut croire que cela embarrasse les gros bonnets, puisqu'on m'a fait appeler. » Je travaille à l'amirauté, on est tombé sur moi. On m'a montré l'ordre reçu de Paris. J'ai vu tout de suite la difficulté de la chose. Je l'ai fait remarquer et l'on m'a dit « de venir ici », interrompit Perrol. « Non, de faire en sorte de l'exécuter. » Et vous avez commencé par venir ici. Vous venez toujours ici. J'ai commencé par chercher un homme, dit l'officier de marine. Perrol le regarda avec attention. « Vous voudriez me faire croire que dans toute la flotte, vous n'auriez pas trouvé un homme ?»« Je n'ai jamais pensé à en chercher un là. Mon chef a convenu avec moi que ce n'était pas une mission pour des marins. »« Eh bien, ça doit être quelque chose d'assez vilain pour qu'un marin admette cela. »« Qu'est-ce que c'est que cet ordre ? Je ne suppose pas que vous soyez venu ici sans avoir l'intention de me le montrer. » Le lieutenant plongea la main dans la poche intérieure de sa vareuse et la ramena vide. « Sachez, Perrol, dit-il gravement, qu'il ne s'agit pas d'une mission de combat. Nous ne manquons pas de gens assez braves pour cela. Il s'agit de faire une niche à l'ennemi. »« Une niche ?» dit Perrol avec la gravité d'un juge. « Je vois ce que c'est. J'ai vu, dans l'océan Indien, M. Surcouf jouer des tours aux Anglais. Vu de mes yeux, ruses, stratagèmes et tous les trucs. C'est de bonne guerre. » « Certainement. » L'ordre vient du premier consul lui-même, car il ne s'agit pas d'une petite affaire. Il s'agit de tromper l'amiral anglais. Quoi, ce Nelson? Ah, mais celui-là est un malin! Après avoir exprimé cette opinion, le vieux Forban tira un foulard rouge de sa poche et, s'en étant essuyé la figure, répéta lentement « Celui-là est un malin !» Le lieutenant prit alors un papier dans sa poche en disant « J'ai pris copie de l'ordre pour vous le montrer. » Le remit à Perrol, qui le prit avec un air incrédule. Le lieutenant Réal regarda le vieux Perrol tenir le papier à bout de bras, puis essayer de le mettre à sa vue. Et il se demanda s'il l'avait copié en caractère assez gros pour que le canonnier pût le déchiffrer aisément. L'ordre disait ceci. « Vous ferez un paquet de dépêches et de prétendues lettres d'officier contenant des allusions assez claires pour convaincre l'ennemi que la destination de la flotte que l'on arme à Toulon est l'Égypte, et de façon générale l'Orient. Vous expédierez ce paquet par mer sur un petit bâtiment quelconque, faisant voile vers Naples, et vous ferez en sorte que ce bâtiment tombe aux mains de l'ennemi. » Le préfet maritime avait fait appeler Réal, lui avait montré le paragraphe de la lettre reçue de Paris, avait tourné la page et posé le doigt sur la signature « Bonaparte ». Après lui avoir donné un regard d'intelligence, l'amiral avait enfermé le papier dans un tiroir et mis la clé dans sa poche. Le lieutenant Réal avait noté le passage, de mémoire, aussitôt que l'idée de consulter Perrol lui était venue. Le Forban, non sans cligner les yeux et pincer les lèvres, était venu à bout du papier. Le lieutenant le reprit en allongeant négligemment le bras. « Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ? » demanda-t-il. « Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de sacrifier un navire de guerre dans cette histoire. Qu'en pensez-vous ? » « Plus facile à dire qu'à faire, » déclara sèchement Perrol. « C'est ce que j'ai dit à l'amiral. C'est donc un marin d'eau douce que vous avez dû lui expliquer ça ? Non, canonnier, ça n'en est pas un. Il m'a écouté en hochant la tête. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, en fin de compte ? Il a dit « parfaitement ». Avez-vous une idée à ce sujet ? Et je lui ai dit « écoutez-moi, canonnier, je lui ai dit « oui, amiral, je crois que j'ai un homme ». L'amiral m'a aussitôt interrompu « très bien, vous n'avez pas besoin de m'en parler. Je vous charge de cette affaire et je vous donne une semaine pour arranger cela. Quand ce sera fait, venez me le dire. En attendant, vous pouvez toujours prendre ce paquet. » Les fausses lettres et les fausses dépêches étaient déjà toutes prêtes, Pérol. J'ai emporté ce paquet du bureau de l'amiral. Un paquet enveloppé de toile à voile, proprement ficelé et cacheté. Voilà 3 jours que je l'ai en ma possession. Il est là-haut dans ma valise. « Ça ne vous avance pas à grand-chose, » grommela le vieux Pérol. « Non, avoua le lieutenant, je peux aussi disposer de quelques milliers de francs. »«
De l'argent, » répéta Pérol.
« Eh bien, mieux vaut vous en retourner et acheter un homme qui veuille bien aller fourrer sa tête dans la gueule du lion anglais. » Réal réfléchit un moment, puis reprit lentement. « Je ne dirai pas ça à un homme, bien sûr. C'est un service dangereux, ça ne fait pas de doute. » « Ça ne fait pas de doute. Si vous trouvez un garçon avec tant soit peu d'intelligence dans sa caboche, il essaiera naturellement d'échapper à l'escadre anglaise, et peut-être y réussirait-il, et alors, que deviendra votre stratagème ? On pourrait lui donner la route à suivre. Oui, et il se pourrait que votre route le fasse justement passer loin de l'escadre de Nelson, car on ne peut jamais dire ce que font les Anglais. Il pourrait très bien être justement occupé à faire de l'eau en Sardaigne. Il est plus probable que les croiseurs se trouveraient dans les parages et s'empareraient de lui. Ça se pourrait. Mais ce n'est pas là remplir la tâche, c'est simplement courir une chance. À qui croyez-vous donc parler ? À un enfant qui n'a pas encore de dents ? Non, canonnier, il faut en avoir de bonnes pour défaire ce nœud-là. Il y eut un moment de silence, puis Pérol déclara d'un ton dogmatique « Je vais vous dire ce que c'est, lieutenant. À mon avis, c'est exactement le genre d'ordre qu'un marin d'eau douce peut donner à des marins. Vous n'allez pas me dire le contraire. »«
Certainement pas, » déclara le lieutenant.
« Et voyez la difficulté. En supposant même que la tartane aille donner droit sur la flotte anglaise, comme si ça avait été arrangé, on visiterait sa cale, on fourrerait peut-être le nez ici et là, mais l'on n'aurait jamais idée d'aller y chercher des dépêches. Notre homme les tiendrait bien cachés, n'est-ce pas ? S'il était assez stupide pour le laisser traîner sur le pont, la mèche serait tout de suite éventée. Mais ce que je crois qu'il ferait, ce serait jeter les dépêches par-dessus bord.
Oui, à moins qu'on ne lui dise la nature de la chose, dit Pérol.
Évidemment, mais quelle somme pourrait convaincre un homme d'aller goûter les pontons anglais.
L'homme prendrait la somme, et puis il ferait de son mieux pour ne pas se faire prendre.
Et s'il ne pouvait l'éviter, il s'empresserait de s'arranger pour que les Anglais ne trouvent rien à bord de sa tartane.
Non, lieutenant, n'importe quel propre à rien disposant d'une tartane vous prendra 2 ou 3 000 francs, le plus gentiment du monde. Mais quant à abuser l'amiral anglais, c'est une autre affaire.
Est-ce que vous n'avez pas pensé à tout cela avant de parler aux gros bonnets qui vous ont chargé de cette affaire ?
J'ai tout de suite vu la difficulté, et je l'ai dit, répéta le lieutenant. Ce que je désirais, c'était vous l'entendre dire.
Comprenez-vous maintenant ce que je vous disais ce matin du haut de cet observatoire ? Vous rappelez-vous ce que j'ai dit ?
Pérol, regardant en l'air, murmura d'un ton uniforme. Je me rappelle qu'un officier de marine a essayé de bousculer le vieux Pérol sans y parvenir. Il se peut bien que je sois disparu, mais je suis encore assez solide en face d'un blanc-bec qui se fâche, le diable sait pourquoi. C'est une bonne chose que vous n'y soyez pas parvenu, sans quoi je vous aurais entraîné avec moi et nous aurions fait notre dernier saut ensemble au grand divertissement d'un équipage anglais. Une jolie fin.
Vous ne vous rappelez pas que, quand vous m'avez dit que les Anglais enverraient une embarcation pour fouiller nos poches, j'ai dit que ce serait un moyen excellent ?
Immobile comme une pierre, tandis que l'autre se penchait à son oreille, Pérol semblait offrir à ses murmures un insensible réceptacle.
Le lieutenant poursuivit. Eh bien, c'était une allusion à cette affaire, car, voyez-vous, canonnier, qui eût-il de plus convaincant que de trouver sur moi le paquet de dépêches? Quelles eussent été leurs surprises et leurs satisfactions? Aucun doute n'aurait pu leur venir à l'esprit. Ne pensez-vous pas, canonnier? Je vois d'ici le capitaine de cette corvette mettant toute voile dehors pour aller remettre le paquet entre les mains de l'amiral. Le secret de la destination de la flotte de Toulon trouvé sur le cadavre d'un officier. N'aurait-il pas exulté devant cette bonne fortune inespérée? Mais il ne l'aurait pas appelé accidentelle. Non, il l'aurait appelé providentielle. Je connais les Anglais un peu aussi. Ils aiment avoir Dieu de leur côté. C'est le seul allié auquel il n'est jamais besoin de donner des subsides. Vous ne trouvez pas, canonnier, que ça aurait été un moyen excellent? Le lieutenant se redressa. Pérol grommela doucement. Il est encore temps. Le navire anglais est toujours dans la passe. Il attendit un moment, sans altérer son immuable attitude de statue vivante, avant d'ajouter sarcastiquement « Vous n'avez pas l'air très pressé d'aller faire ce plongeon. Ma foi, je suis assez dégoûté de la vie pour le faire, » dit le lieutenant sur le ton de la conversation. « Eh bien, n'oubliez pas de monter chercher ce paquet avant d'y aller, » dit Pérol. « Mais ne m'attendez pas, je ne suis pas dégoûté de la vie, moi. Je suis disparu. C'est bien assez. Je n'ai pas la moindre envie de mourir. Je ne vous le demande pas, » dit le lieutenant d'un ton extrêmement sévère, et que Pérol aurait appelé un ton de porteur d'épaulette. Vieux bandit de mer. Et ce ne serait pas pour le bon plaisir d'un militaire, en tout cas. Vous et moi, nous sommes Français, après tout. Vous avez découvert cela, vous? Oui, dit Réal, ce matin, en vous écoutant parler sur la falaise. Oui, grogna Pérol, un navire de construction française. Il se donna un grand coup dans la poitrine. Ça fait mal là de la voir. J'aurais envie de sauter sur le pont, moi tout seul. Oui, là-dessus, vous et moi, nous nous comprenons, dit le lieutenant. Mais écoutez-moi, il s'agit de beaucoup plus que de reprendre une corvette capturée. En réalité, il s'agit de bien plus que de faire une niche à un amiral. Cela fait partie d'un grand plan, Pérol. C'est un coup qui doit nous aider à remporter une grande victoire en mer. Nous, dit Pérol, moi je suis un flibustier, et vous, un officier de marine. Que voulez-vous dire par « nous » ? Je veux dire les Français, répondit le lieutenant, ou simplement la France, que vous avez servi aussi. Pérol, dont l'attitude de statue s'était humanisée presque malgré lui, fit un geste d'assentiment et dit « Vous avez quelque chose en tête. Eh bien, qu'est-ce que c'est, si vous croyez pouvoir vous fier à un flibustier ? Non, je me fie à un canonnier de la République. » J'ai pensé que pour cette grande affaire, nous pourrions nous servir de cette corvette que vous observez depuis si longtemps. Car comptez que l'escadre ira capturer une vieille tartane sans que cela n'éveille des soupçons. Une idée absurde, déclara Pérol avec plus de chaleur qu'il n'en avait jamais montré devant le lieutenant Réal. Oui, mais il y a cette corvette. Ne pourrait-on s'arranger pour leur faire avaler la chose d'une façon ou d'une autre? Vous riez. Pourquoi? Je ris parce que ce serait une bonne plaisanterie, dit Pérol dont l'hilarité fut de courte durée. Ce garçon-là, à bord de sa corvette, il se croit très malin. Je ne l'ai jamais vu, mais j'avais fini par penser que je le connaissais comme si c'était mon propre frère. Mais maintenant, il s'arrêta court. Le lieutenant Réal, après avoir observé ce brusque changement de contenance, se mit à dire avec un accent pénétrant « Je crois que vous venez d'avoir une idée ». « Pas la moindre, » répondit Pérol, reprenant comme par enchantement son attitude pétrifiée. Le lieutenant ne se découragea pas et ne fut pas surpris d'entendre la statue qui était devenue Pérol déclarer « Tout de même, on pourrait voir. » Puis, brusquement, « Vous aviez l'intention de passer la nuit ici ?»« Oui, j'allais descendre seulement faire prévenir la chaloupe qui doit venir de Toulon d'avoir à retourner sans moi. »« Non, lieutenant. » Il faut retourner à Toulon aujourd'hui. Quand vous y serez, il faut obtenir de ces gratte-papiers du bureau de la marine, même s'il est minuit, qu'il vous délivre des papiers pour une tartane avec le nom que vous voudrez. Des papiers quelconques. Et vous reviendrez alors aussitôt que possible. Pourquoi ne pas descendre à Madrague maintenant et voir si la chaloupe n'est pas déjà là? Si elle y est, en partant tout de suite, vous pourriez être revenu vers minuit. » Il se leva avec impétuosité. Le lieutenant se leva également. L'hésitation était marquée dans toute son attitude. L'aspect de Pérol ne montrait aucune animation particulière, mais son visage et son aspect sévère lui donnaient un air d'autorité. « Vous ne voulez pas m'en dire davantage ?» demanda le lieutenant. « Non, » répondit Pérol, « pas avant que nous ne nous revoyons. Si vous revenez pendant la nuit, n'entrez pas dans la maison, attendez dehors. Ne réveillez personne. Je serai dans les parages, et s'il y a quelque chose à vous dire, je vous le dirai alors. Que cherchez-vous? C'est inutile de monter chercher votre valise. Vos pistolets sont aussi dans votre chambre. Pourquoi faire des pistolets? Pour aller à Toulon et en revenir avec un équipage de la marine? » Il posa la main sur l'épaule du lieutenant et le poussa doucement vers le sentier qui menait à Madrague. À ce contact, Réal tourna la tête et leurs regards tendus se croisèrent comme ceux de deux lutteurs. Ce fut le lieutenant qui céda devant le regard inflexiblement résolu du vieux frère de la côte. Il céda sous le couvert d'un sourire sarcastique, et de cette remarque faite d'un air dégagé, « Je vois que vous voulez vous débarrasser de moi d'une façon ou d'une autre », ce qui ne fit pas le moindre effet sur Pérol, qui lui montrait du bras la direction de Madrague.